Chapitre 5, versets 1 à 10, les souffrances de Christ et son appel à la sacrificature. Citation de l'Écriture. Car tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il offre des dons et des sacrifices pour les péchés, étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants, puisqu'il est aussi lui-même enveloppé d'infirmité. Et, à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. Or, nul ne s'arroge cet honneur, mais seulement s'il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron. De même, le Christ aussi ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré ». Comme il dit aussi dans un autre passage, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek », qui, durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, quoiqu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et, ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Fin de citation. L'apôtre nous a montré la sphère dans laquelle s'exerce la sacrificature de Christ, la maison de Dieu, et les circonstances des siens qui réclament son service sacerdotal, la traversée du désert. Maintenant, il place devant nous les souffrances par lesquelles Christ a passé pour être à même d'accomplir son service sacerdotal et l'appel à l'office sacerdotal. Pour présenter la valeur de la sacrificature de Christ, l'apôtre fait allusion dans ses versets à la sacrificature aaronique comme présentant des principes généraux du service sacerdotal. En même temps, il montre, par contraste, la supériorité de la sacrificature de Christ sur celle d'Aaron. Les quatre premiers versets parlent non pas de Christ et de sa sacrificature céleste, mais d'Aaron et de la sacrificature terrestre. L'attention est attirée sur la personne du sacrificateur terrestre, sur son office, sur les expériences du sacrificateur et sur son appel au service. Quant à sa personne, le souverain sacrificateur est pris d'entre les hommes. Ceci est en contraste frappant avec la sacrificature de Christ. Certes, Christ est homme, mais il est beaucoup plus. L'auteur a rendu témoignage et va le faire encore que le Christ, qui est notre souverain sacrificateur, est le Fils éternel. Quant à son office, le sacrificateur terrestre est établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il offre et des dons et des sacrifices pour les péchés, étant capable d'avoir de l'indulgence pour les ignorants et les errants. Nous avons là la préfiguration du service sacerdotal de Christ. Comme souverain sacrificateur, il officie en faveur des hommes, les plusieurs fils qu'il amène à la gloire, pour les garder de chute et les maintenir pratiquement dans une marche avec Dieu. Christ a souffert un sacrifice unique pour amener les siens en relation avec Dieu. Et ayant accompli la grande œuvre qui ôte leurs péchés, il exerce maintenant son service sacerdotal en intercession, en sympathie et en secours, en faveur de son peuple ignorant et errant. Quant aux expériences personnelles du sacrificateur terrestre, nous lisons qu'il est aussi lui-même enveloppé d'infirmité. Et, à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, comme pour le peuple, ainsi aussi pour lui-même. Ici, l'analogie avec la sacrificature de Christ est partielle et le contraste clair. Certes, dans les jours de sa chair, Christ s'est trouvé dans des circonstances d'infirmité, mais, en contraste avec Aaron, son infirmité était sans péché. Aussi, il ne devait rien offrir pour lui-même. Quant à l'appel du sacrificateur terrestre, nul ne s'arroge cet honneur, mais seulement s'il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron. Là, de nouveau, il y a analogie, comme cela nous est d'emblée rappelé, avec la sacrificature de Christ. Nul ne peut véritablement prendre la place de sacrificateur, dans quelque sens que ce mot soit pris, s'il n'est appelé de Dieu. La gravité extrême du non-respect de cette importante vérité paraît dans le jugement qui tomba sur Corée et ses associés, qui avaient cherché à s'établir dans la sacrificature sans y être appelés par Dieu. Jude nous avertit que, dans la chrétienté, il y en aura beaucoup qui s'établiront eux-mêmes sacrificateurs sans l'appel de Dieu et qui périront dans la contradiction de Corée. Nombre 16, versets 3, 7, 10 et Jude, verset 11. Nous avons donc là le caractère de la sacrificature terrestre selon la pensée de Dieu et non pas telle qu'elle est illustrée dans l'histoire d'Israël coupable, histoire qui se termine par l'occupation simultanée de la place du souverain sacrificateur par deux hommes méchants, Anne et Caïphe, conspirant pour crucifier leur Messie. Dès le verset 5, l'auteur se met à parler de Christ comme souverain sacrificateur. Il place devant nous la grandeur de sa personne, en tant qu'appelé à la sacrificature, les expériences qu'il a connues pour être à même de l'exercer, et l'appel par Dieu à cet office. La gloire de sa personne, Christ, qui est appelé à être notre grand souverain sacrificateur, est en vérité pris d'entre les hommes pour exercer sa sacrificature en leur faveur. Néanmoins, dans l'humanité, il est reconnu comme le Fils. « Tu es mon Fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré. » C'est cette personne glorieuse, celui qui est véritablement Dieu et véritablement homme, et en qui la divinité et l'humanité sont parfaitement réunies, qui est établi sacrificateur selon la parole, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Quant au caractère de cet ordre de sacrificature, l'apôtre aura davantage à dire. Ici, le psaume 110 est cité pour montrer non seulement la grandeur du sacrificateur, mais la dignité de la sacrificature. Dans les versets 7 et 8, nous apprenons par quelles expériences Christ a passé pour pouvoir exercer son service sacerdotal. Combien il est nécessaire qu'il soit la personne glorieuse qu'il est, le Fils, pour exercer la souveraine sacrificature dans le ciel. Mais il fallait plus. S'il doit secourir et aider les siens pendant la traversée du désert, il faut qu'il entre lui-même dans les souffrances et les difficultés du chemin. Aussi, l'auteur rappelle-t-il d'emblée les jours de sa chair. Lorsqu'il prit part à nos infirmités, foula le sentier que nous suivons, fut confronté aux mêmes tentations que nous et exposé aux mêmes peines. L'auteur fait particulièrement allusion aux souffrances des derniers jours du Seigneur, lorsque l'ennemi, qui, comme l'a dit un autre, au début avait cherché à séduire Jésus en lui offrant les choses qui sont agréables à l'homme, Luc 4, se présentait contre lui avec des choses terribles. Pensée de J.N. Darby. À Gethsémané, Satan chercha à détourner le Seigneur du sentier de l'obéissance en plaçant devant lui la terreur de la mort. Face à cet assaut, le Seigneur agit comme l'homme parfait. Il n'exerça pas sa puissance divine pour chasser le diable ou se préserver de la mort, mais, comme l'homme parfaitement dépendant, il trouva sa ressource dans la prière. Il fit face ainsi à l'épreuve et vainquit le diable. Toutefois, sa perfection même comme homme l'amena à sentir la terreur de tout ce qui était devant lui et à exprimer ses sentiments avec de grands cris et avec larmes. Il rencontra l'épreuve dans une dépendance parfaite de Dieu et avec confiance en Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Dans toute cette terrible épreuve, il fut exaucé à cause de sa piété qui introduisait Dieu dans chaque circonstance, par la dépendance et la confiance en lui. Il fut exaucé, étant fortifié dans sa faiblesse physique et rendu capable en esprit de se soumettre pour prendre la coupe de la main du Père. Il vainquit ainsi la puissance de Satan et, quoiqu'il fût fils, appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous, nous devons apprendre à obéir parce que nous avons une volonté mauvaise. Lui a appris ce que c'est qu'obéir parce qu'il était Dieu sur toute chose, qui, de toute éternité, avait toujours commandé. Nous apprenons souvent l'obéissance par les souffrances que nous attirons sur nous par notre désobéissance. Lui a pris l'obéissance par les souffrances entraînées par son obéissance à la volonté de Dieu. Il a pris par l'expérience ce que cela coûtait d'obéir. Nulle souffrance, aussi intense fut-elle, ne put le faire dévier du sentier de la parfaite obéissance. Un autre a dit « Il s'est soumis à tout, a obéi en tout et dépendait de Dieu pour tout. » Pensée de J.N. Darby. Les souffrances auxquelles l'apôtre fait allusion étaient celles des jours de sa chair, non pas celles du jour de sa mort. À la croix, il a souffert sous la colère de Dieu. Et là, il dut être seul. Nul ne peut partager ses souffrances expiatoires ni y entrer. Dans le jardin, il a souffert de la puissance de l'ennemi. Et là, d'autres lui sont associés. Nous pouvons, dans notre petite mesure, partager ses douleurs lorsque nous sommes tentés par le diable, et nous avons alors toute la sympathie et le secours de celui qui a souffert avant nous. En outre, non seulement il a été exaucé dans le jardin, mais, ayant souffert, il est aussi exaucé par la résurrection et est consommé en gloire. Il prend sa place comme homme glorifié, selon ses propres paroles. « Voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé. » Luc 13, verset 32. Rien ne pouvait ajouter à la perfection de sa personne, mais ayant traversé les souffrances des jours de sa chair, ayant accompli l'œuvre de la croix et étant élevé et glorifié, il est parfaitement à même d'exercer son service sacerdotal en faveur des plusieurs fils qui sont en route pour la gloire. Étant consommé, il est salué par Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Devenu homme, fait chair, il est appelé à exercer la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Ressuscité et consommé en gloire, il est salué comme ayant répondu à l'appel. Versets 11 à 14, la condition spirituelle des croyants hébreux. Le grand objet de cette portion de l'Épître est de développer le caractère béni de la sacrificature de Christ. Ayant mentionné la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, pour montrer par analogie la dignité de la sacrificature de Christ, l'apôtre arrête le cours de son exposé pour le reprendre au début du chapitre 7. Dans la parenthèse que constituent ces versets, l'apôtre s'occupe de l'état spirituel de ceux auxquels il écrit. Leur paresse à écouter les exposait à une sérieuse difficulté et à un grave danger. La difficulté était qu'ils étaient incapables d'interpréter les figures de l'Ancien Testament. Nous trouvons cela du chapitre 5, verset 11, au chapitre 6, verset 3. Le danger était que, dans leur état d'enfance spirituelle, certains en arrivent à abandonner la profession du christianisme pour retourner au judaïsme. Ce danger est développé dans les versets 4 à 8 du chapitre 6. Les derniers versets de la parenthèse, chapitre 6, versets 9 à 20, expriment la confiance de l'apôtre et son assurance à l'égard de ceux auxquels il écrit. Versets 11 à 14, citation de l'Écriture. Étant salué par Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car, lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Fin de citation. Ceux à qui l'apôtre écrivait n'étaient pas simplement ignorants quant à la vérité et jeunes dans la foi. chose qui ne rendrait pas nécessairement difficile la compréhension de l'enseignement de l'Écriture. La vraie difficulté était qu'ils étaient devenus paresseux à écouter. Leur croissance spirituelle s'était arrêtée. Le moment était venu où ils auraient dû être des docteurs, mais ils avaient de nouveau besoin qu'on leur enseigne les vérités élémentaires des premiers rudiments des oracles de Dieu. Ils étaient devenus tels qu'ils avaient besoin de lait et non de nourriture solide. L'apôtre ne méprise nullement l'emploi de lait, mais il dit que si le lait est le régime approprié, c'est une preuve évidente que le croyant est spirituellement dans un état d'enfance et qu'il a besoin d'être établi dans la justice de Dieu. La nourriture solide, la pleine vérité du christianisme dans laquelle l'apôtre désire nous instruire, est pour l'homme fait, celui qui est établi dans la position dans laquelle la justice de Dieu l'a placé, comme fils devant Dieu. Celui-ci, loin d'être paresseux à écouter, a ses sens exercés à discerner le bien et le mal.